Comme vous le savez, il y a plusieurs manières d'interpréter la parole du Seigneur. Et je vais choisir une manière particulière qui m'est venue en méditant sur cette parabole. Je me dis, cette parabole parle de la colère. Ça parle de la colère. Et de la colère en famille. Un homme avait deux fils. La colère, on le voit bien dans l'attitude du premier, qui dit non, qui a de la bronca pour X raisons, ce n'est pas détaillé. Mais il y a quelque chose d'universel dans cette parabole, comme dans beaucoup. On ne connaît pas ni le nom du père, de l'homme, qui est, ni le nom des fils. Ça veut dire que ça, potentiellement, ça nous concerne tous. Et cette colère du premier, peut-être vient du fait que il a souvent rendu service. C'est d'abord à lui que son père s'adresse. Et donc, comme il a du mal à dire non, vient un peu le moment où la coupe déborde, et là il dit non, mais finalement il y va. Et puis le deuxième, il est aussi en colère. Il est en colère parce que il trouve ça quelque part injuste. C'est intéressant de voir que les tempéraments colériques, ce sont des tempéraments qui sont très attachés à la justice. Et l'injustice provoque la colère. Et certainement, pour le second, il y a une forme aussi d'injustice. Il dit oui pour avoir la paix sociale, mais finalement, il n'y va pas. Évidemment, quand vous lisez cette parabole, vous pensez à une autre parabole qui parle aussi de la colère et qui commence exactement comme ça. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Vous vous rappelez la parabole qu'on appelle du fils prodigue. Et puis le fils aîné, ensuite, qui voilà, lui aussi a une forme de colère. Je trouve ça intéressant de dire que la colère donc vient de la question de la justice, et de la justice dans les relations familiales. On parle bien d'un homme avec ses enfants, parce qu'il avait d'autres enfants, la parabole ne le dit pas, mais il y avait quelque part où il avait du mal à trouver la juste mesure, la juste distance, la juste appréciation des charismes de chacun. Et c'est vrai que pour nous aussi, c'est parfois difficile en famille, de donner à chacun ce qui lui est dû. Parce que le principe de la vertu de justice, c'est précisément ça. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Et on peut être injuste en famille, comme on est aussi, on peut être injuste avec soi-même, injuste avec le bon Dieu, en ne lui donnant pas ce qui lui est dû. Et donc, provoquer une forme de colère. On parle aussi de la colère de Dieu, c'est assez intéressant dans la Bible. Mais cette colère de Dieu, à la différence de celle de l'homme, cette colère de Dieu, ça vient d'un amour jaloux. C'est ce fait de ne pas de se donner dans sa parole, et puis évidemment dans son fils, dans ces temps qui sont les derniers, comme dit l'Écriture, et de ne pas recevoir, voire d'être rejeté. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Il me semble, là aussi, plusieurs interprétations possibles, mais si ça vous paraît bien, on pourrait interpréter comme ça. Il me semble que dans le premier cas, le premier cas, il dit non. Il a une forme de bronca, là, on sent. Mais finalement, il y va. Qui est-ce qui a fait la volonté de Dieu, pose le Seigneur à la fin. C'est le premier. Peut-être parce qu'il a traversé sa colère. Il a traversé sa colère, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait lui comme une injustice, mais qu'il est allé plus loin. Et qu'il a vu dans la demande du père, de son père bienveillant, il a vu quelque chose qui le construisait. Traverser sa colère, c'est-à-dire à la fois sentir que voilà, il y a une sorte de trop-plein. C'est peut-être ça l'origine. C'est une interprétation. Vous pouvez avoir la vôtre, et c'est un bien que vous ayez la vôtre. Mais il y avait peut-être une sorte de trop-plein, si vous voulez, dans la famille de celui qui rend toujours service, de celui qui, vous voyez, à qui on demande toujours, parce que voilà, il y a celui qui est plus problématique, là, on ne lui demande jamais, voilà, parce que voilà. Et donc, ça dans toutes les familles. Mais il a traversé là, ça, et je trouve ça intéressant de dire que qui est-ce qui a accompli la volonté de Dieu, demande Jésus à la fin à ses auditeurs, eh bien c'est le premier. C'est celui qui touche du doigt sa révolte. Et c'est bien de la toucher du doigt, c'est bien de la nommer, qui touche du doigt peut-être son indignation, qui touche du doigt sa bronca, et qu'il exprime, qu'il a dit. Et on imagine très bien que la manière de dire ne devait pas être complètement apaisée. En tout cas, on peut le supposer. Mais parce qu'il a touché du doigt sa colère, il peut aussi la traverser et s'apaiser et rentrer dans une logique de don. C'est intéressant de voir, par exemple, dans le livre de Job, comment Job, lui aussi, est en colère. Là, on a l'histoire d'un homme en colère. Hein, on a l'histoire d'un homme en colère, et c'est intéressant, c'est que dans le livre de Job, vous avez les trois amis de Job qui représentent grosso modo la tradition biblique d'alors. Voilà, si t'arrives ça, ben oui, il y a des tas de choses. Voilà, vous connaissez le livre de Job, il a de la maladie, il perd ses biens, voilà, ses enfants aussi sont atteints, etc., etc. Et donc il y a une vraie colère contre Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans le livre de Job, les amis qui voudraient défendre Dieu, mais non, c'est parce que tu es un pécheur, c'est pour ça que ça t'arrive, etc., etc., eh bien à la fin, Dieu ne leur donne pas raison, à ses amis qui voulaient justifier Dieu, comme si Dieu n'était pas la justice. Et il justifie Job, qui allait très loin, pratiquement dans le blasphème, en disant « Dieu n'est pas saint, Dieu n'est pas bon, Dieu, etc. etc. » Il a accueilli la colère, et colère qui est d'autant plus forte quand on croit en un Dieu tout-puissant, par définition. Si on ne croyait pas en Dieu, bon, il n'y a pas que les croyants qui sont en colère, mais bon, je dis les incroyants, ils sont aussi en colère, mais quelque part, le fait d'être croyant et de croire à un Dieu tout-puissant vient remettre, je veux dire, une pièce dans le jukebox, c'est-à-dire vient remettre encore plus de véhémence à notre révolte. Parce que si tu peux quelque chose et tu peux tout, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et donc je trouve ça intéressant de dire, tiens, est-ce que il a accompli la volonté du Père, le premier, est-ce que c'est aussi parce qu'il a laissé sa révolte, sa bronca s'exprimer auprès du Seigneur, le Père étant là la figure de Dieu, comme vous le savez bien. Et le deuxième n'a pas osé. Le deuxième, il n'a pas osé. Il a dit oui, mais il n'y est pas allé. Ça veut dire derrière ça que, quelque part, il n'a pas osé montrer sa fragilité au Seigneur. Il n'a pas osé dire ce qui peut-être le chagrinait dans cette demande du Père. « Aller travailler à ma vigne, que tu me demandes, somme toute assez banale pour cette région et pour l'époque, voilà, et pour des fils. » Voilà, c'est assez, on suppose que c'est la vigne du Père, c'est pas dit, mais c'est ma vigne, donc c'est la vigne du Père. Mais il n'a pas osé, oui. Je trouve ça intéressant, c'est que quelqu'un qui se met en colère, il y a quelque chose de touchant. Il y a quelque chose, quelque part, il montre une certaine vulnérabilité. Cette personne-là, elle, et aussi, elle montre ce à quoi elle tient. Elle tient. Il y a quelque chose qui, dans la relation avec le Père, le blesse, mais en même temps, il y tient à cette relation et il va travailler à la vigne. Et je trouve que ces personnes-là, être face à quelqu'un en colère, c'est pas facile. Mais c'est important de ne pas couper, mais au contraire de laisser la personne dire sa souffrance. Parce que derrière toute colère, il y a une souffrance. Juste ou pas, peu importe. Mais On n'est pas là pour faire une évaluation, mais il y a une souffrance. Et le Père ne coupe pas dans sa parole le Fils, le premier qui s'exprime. Il ne le coupe pas. Il accueille ça. Il accueille son nom. Et l'autre n'ose pas dire. L'autre, non, il lui donne toute puissance, mais finalement, ben, voilà, il n'y va pas. Je trouve que pour nous, ça nous dit quelque chose de notre attitude face au Seigneur, mais aussi de notre attitude face à ceux qui nous sont proches, à ceux avec qui nous avons des relations qui sont tendres. Tendre ne veut pas dire facile, parce que les relations familiales, ce sont des relations tendres, des relations, je veux dire, chaudes, dans le sens de qui amènent une chaleur, mais qui la chaleur peut aussi blesser, brûler. Donc c'est à double tranchant, vous voyez bien. Donc je me dis, tiens, c'est intéressant dans les relations familiales de laisser la place à la colère, même si c'est pas facile d'entendre ça. Même si ça peut être, si, à notre jugement, ça peut être injuste que l'attitude de celui qui est en pleine bronca face à nous. Ça peut être, pour nous, on le voit comme injuste, parce qu'il se positionne aussi comme victime. Et c'est peut-être aussi le cas du fils du premier qui s'exprime. Hein, il se positionne comme victime, mais peu importe. Il y a encore plus dans la parabole du fils prodigue, encore plus. Dieu laisse l'homme en colère devant lui s'exprimer, parce qu'il sait que c'est déjà une forme de prière. C'est déjà une forme de prière. Alors pour nous, c'est plus compliqué parce que voilà, nous avons aussi notre sensibilité, nous avons nos émotions, nous avons aussi parfois un passé et un passif avec cette personne-là, et donc d'écouter son enfant être en colère. Mais je trouve ça important de laisser ces émotions. Vous savez, la colère fait partie justement de ces grandes formes d'émotions. Mais vous voyez, moi je regrette que dans la tradition catholique, on ait mis ça comme parmi les péchés capitaux. Parce que je regrette ça, parce que je trouve que ce que nous fait faire la colère, oui, peut engendrer du mal, peut engendrer de la violence, peut engendrer ça, oui. Mais la personne qui est dans une forme de révolte face à l'injuste, ben ce sont aussi des grands saints qui ont été dans la révolte face à l'injuste. On a célébré il y a peu de temps cette semaine Saint-Vincent de Paul, par exemple. Mais aussi des hommes, vous pensez par exemple à Rosa Parks qui est dans les années 50, cette noire, qui n'a pas cédé sa place dans le bus parce que sous prétexte qu'elle était une femme de couleur. Oui, et il y a eu toute la marche des droits civiques, etc., des Afro-Américains, mais c'est venu d'une vraie insurrection intérieure face à l'injustice. Alors je trouve que la colère, oui, elle peut être aussi offerte à Dieu. Alors c'est juste jusqu'où il faut aller. Ensuite, il y a des conséquences, là, pour le coup, qui peuvent être de l'ordre du péché, ça oui. Mais c'est d'abord de l'ordre de l'émotion. Hein, de l'émotion. Et je trouve ça dommage qu'on voit ça comme des émotions négatives. Vous voyez, il y a deux classes, l'émotion positive, la joie, etc., etc. Et la colère, on le classe dans les émotions négatives. L'émotion, et ça c'est la tradition de l'Église, l'émotion elle est neutre. Elle est neutre, l'émotion. Et le Seigneur accueille aussi nos émotions. Même si c'est dans le cas présent une émotion qui est assez violente, assez véhémente. Alors je trouve que c'est beau qu'en ce jour où vous avez peut-être, on ne prête pas toujours attention, c'est normal, mais la prière, si vous avez, pouvez relire la prière d'ouverture, qu'on appelle la prière collecte, la première prière qu'on lit après le Gloria, que le prêtre lit. Dieu qui monte ta toute puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est juste là, avec cet évangile. Patiente et prends pitié. Demandons cette grâce particulière de nous-mêmes accueillir l'homme qui est dans la souffrance et qui l'exprime, mais aussi nous-mêmes avoir cette confiance pour nous tourner vers le Seigneur, lui dire notre désaccord, lui dire que ben, voilà, il y a des choses qu'on on trouve ça injuste, tel Job, et nous serons les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.